Voilà, donc je note toujours dans l'ordre chronologique, c'est pour ça qu'il faut absolument vérifier les dates de naissance auprès de l'état civil, hein, pour que vous soyez sûr des dates. Alors, vous voyez donc ici, on a deux garçons et une fille, une configuration qui n'a rien à voir avec la configuration donc, de la génération suivante. Et puis, je vais regarder du côté du père, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se peut, ben, là, je vais inventer un exemple, imaginons que le père soit enfant unique. Un cas encore particulier. Alors, le père, donc, est fils unique. Je vais régler le tableau. Ça glisse un peu le tableau. Bon. Alors, je ne sais pas m'appuyer dessus. Voilà. Oui, peut-être. Tu veux mettre la chaise. Voilà. Alors, donc, il y a des raisons, bien sûr, à l'enfant unique. Hein. Je vais vous en donner quelques-unes. Bien. Lorsque l'on est enfant unique, c'est soit que les parents viennent eux-mêmes d'une famille nombreuse, donc par réaction, ils ne font qu'un seul enfant pour échapper, en fait, à un mode de vie qui est groupal, hein, c'est-à-dire que n'ayant pas été vus pour eux-mêmes parce qu'il y a de nombreux frères et sœurs, donc la réaction, c'est qu'à la génération suivante, ils ne conçoivent qu'un seul enfant. C'est-à-dire que l'enfant unique devient le moi idéal, en quelque sorte, la situation idéale que l'on aurait voulu avoir soi-même dans l'enfance quand on est issu d'une famille nombreuse. Mais il y a aussi d'autres cas qui génèrent l'enfant unique. Imaginons donc ici les grands-parents, dans la génération précédente, les arrière-grands-parents aient conçu des enfants dans deux générations. Il se peut que donc il y ait un enfant tardif ici dans la fratrie des grands-parents qui ait au fond joué le rôle de frère ou de sœur, hein, pour ce fils unique. Donc il n'est pas si unique que ça, parce qu'il y a peut-être des enfants de cette génération-là, des enfants tardifs de cette génération, qui remontent symboliquement participer ici. Bien. Alors, voilà donc la configuration de mes parents. Je vais tout de suite en déduire un certain nombre de choses. Bien sûr, un enfant unique sous-entend eh bien, qu'il n'y a pas là de frères et sœurs. Donc, on va rechercher aussi peut-être, une fois adulte, la relation avec une sœur ou un frère qui ont manqué. Alors, la mère, elle, par contre, ne connaîtra pas la relation à la sœur puisqu'elle n'a pas de sœur, elle n'a que des frères. Donc, quand vous regardez une configuration fraternelle, vous regardez ce qui est en place, mais vous pouvez regarder aussi ce qui a manqué. Bien, alors après nous redescendons encore un niveau, c'est-à-dire que nous sommes au niveau des grands-parents. Alors les grands-parents, eh bien, ici donc la grand-mère maternelle, ici le grand-père maternel, ici donc la grand-mère paternelle, et ici, le grand-père paternel. Voilà. Donc, j'ai mes quatre grands-parents, les deux couples fondateurs de l'histoire familiale, avec leurs frères et sœurs aussi, si je les connais, parce que je peux, de la même façon, donc, mentionner la fratrie des grands-parents. Voilà. Pourquoi ? Bon, dans les fratries, vous savez qu'il y a des destinées tout à fait particulière, tout à fait singulière. Ce n'est pas parce qu'on appartient à la même famille que tout le monde va avoir le même destin, pas du tout. Hein? Voilà, donc quand on regarde les ascendants, c'est-à-dire aussi bien dans la branche maternelle que paternelle, on doit les comprendre à l'intérieur, en fait, d'une destinée familiale, et ce qui arrive aux uns va influencer la destinée des autres. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, lorsque l'on voit, imaginons que ma grand-mère ait eu un frère décédé prématurément. Elle a perdu un frère à la guerre, ou elle a perdu un frère en bas âge parce qu'il est mort de maladie. Ou elle a un frère qui s'est expatrié. Enfin bon, toute configuration particulière, eh bien, tout ça va peser, en fait, sur son psychisme, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire que ça va avoir une action, si vous voulez, dans son enfance, son adolescence, voire sa vie adulte, et ça peut changer le cours de sa destinée. Donc, lorsque vous regardez le niveau des grands-parents, vous regardez tout ce qui est arrivé à chacun des frères et sœurs. Qui a fait quoi? En quelle année? Quels sont les grands événements qui sont passés dans la famille? Au niveau de la santé, au niveau de l'activité, au niveau du mariage. Vous voyez, tous les traumatismes, même historiques, ça je vais en parler, qui ont touché la famille, vont influencer l'ensemble du groupe, et non pas qu'une seule personne. Bien. Alors la même chose, bien sûr, du côté paternel. Et puis quand je redescends un niveau, bien, je suis tout de suite au niveau des arrière-grands-parents, hein, c'est-à-dire que normalement, il y a donc ces 8 arrière-grands-parents, si tout va bien. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de cas d'inceste, s'il n'y a pas d'inceste avec filiation, auquel cas ça réduit le nombre d'ascendants directs, j'ai bien mes 8 arrière-grands-parents, donc les 4 couples fondateurs de mon histoire familiale. Voilà, donc les arrière-grands-parents, c'est à peu près une centaine d'années avant soi. Alors, là aussi, il peut y avoir des décalages un petit peu de génération. Ils ne sont pas forcément tous nés la même année. Hein, parce qu'il y a aussi des couples qui se sont mariés avec des différences d'âge. Hein, donc, on ne peut pas, effectivement, avoir comme ça une moyenne des âges. Il se peut qu'on ait une génération d'écart entre certains des arrière-grands-parents. Alors, il y a une chose que je voudrais préciser qui est très importante, c'est le fait que... Bien sûr, quand on parle de l'arbre généalogique, on parle des problématiques familiales. On parle de la violence familiale, de cette rupture entre les générations, de certains dysfonctionnements qui existent à l'intérieur des familles, des préférences, des rivalités, des mariages mal fondés, des vocations contrariées, etc., des décès prématurés. Bien. Tout ça, c'est une conséquence, en fait, de ce que j'appelle les traumatismes historiques.